Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Les deux camarades d'Alisha, cette ado de 14 ans retrouvée morte noyée à Argenteuil, ont été déférés pour assassinat. Assassinat, ça laisse penser qu'ils avaient donc prémédité leur acte. Ils ont, semble-t-il, tendu un véritable guet-apens à la victime. On fera bien sûr le point sur l'enquête puisque le procureur de la République de Pontoise vient de tenir une conférence de presse. Et à 18h15, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui sera l'invité d'RTL Soir pour parler de cette affaire, entre autres sujet. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce 10 mars.
Et à la une, ce nouveau conseil de défense ce matin à l'Élysée, coup de théâtre, le confinement le week-end est prolongé sur le littoral des Alpes-Maritimes. Les élus réclamaient l'inverse. Dans ce journal également, des cinémas qui rouvrent, ça se passe au Québec, mais sans pop-corn, ça n'est pas anecdotique, vous le verrez. Et puis H-3, avant le coup d'envoi du match PSG-Barça, on aura le droit au pop-corn. 8e de finale de Ligue des Champions, c'est ce soir, on le rappelle, à 21h.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Ça va souffler un bon coup de vent dès ce soir d'ailleurs.
Oui, sur le Nord et le Pas-de-Calais notamment, puisque le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange, vent violent. Ça va continuer demain sur les trois quarts nord du pays toute la journée. De la pluie également quasiment partout, entrecoupée d'éclaircies sur le Nord-Ouest, mais en continu entre les Charentes et le Nord-Est le matin. La perturbation va légèrement glisser vers le sud et quelques régions seront quand même à l'écart avec du beau temps entre les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Tout ça sous des températures en hausse, pas de gelée demain et les maximales comprises entre 10 et 20 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les deux jeunes accusés d'avoir jeté une adolescente de 14 ans dans la Seine avant-hier sont donc ce soir dans le bureau du juge. Ils devraient être mis en examen dans les prochaines heures, a priori pour assassinat. Le procureur de la République a donné une conférence de presse il y a moins d'une heure. Conférence de presse que vous avez suivie pour RTL. Valentin Boisset, bonsoir.
Bonsoir.
Le magistrat a livré un scénario terrible.
Oui, un rendez-vous était en réalité fixé depuis le 6 mars entre la victime et la jeune femme du couple. Ils se sont retrouvés en milieu d'après-midi, donc ce lundi, se sont rendus à leur endroit habituel, quai de Saint-Denis. Elles discutent, mais le piège était déjà tendu. Le petit copain de la jeune femme a enfilé des gants pour ne pas laisser de traces. Il s'est dissimulé derrière un poteau, comme l'explique le procureur de Pontoise.
Après avoir discuté quelques minutes, le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. La victime était encore consciente, elle gémissait les yeux ouverts.
Le couple jette ensuite ensemble Alisha dans la Seine alors qu'elle est donc consciente et ne peut en revanche plus bouger suite au coup reçu. Les deux jeunes gens rentrent chez eux, n'expriment pas de remords selon le procureur et vont même jusqu'à aller dîner dans Paris avant d'être interpellés dans la nuit de lundi à mardi.
Récit terrible en effet, Valentin. Le procureur a aussi précisé, expliqué ce qui avait conduit à ce déchaînement de violence.
Effectivement, l'histoire date d'il y a quelques semaines. En réalité, Alisha avait eu une relation avec le jeune homme pendant une semaine, puis il s'est mis avec l'autre collégienne peu de temps après. Le jeune homme ne supportait pas que les deux copines continuent de se fréquenter. S'en suivra donc la publication de photos en sous-vêtements de la petite Alisha sur le réseau Snapchat en public, puis une bagarre.
Il y avait effectivement ce vol de photos. Il y avait eu une bagarre entre les deux jeunes filles. Le jeune homme se plaignant également que la victime aurait parlé mal de son père. Donc on est sur des futilités de ce type-là qui auraient, d'après notamment les SMS, justifié l'envie de faire quelque chose en direction de la victime.
À noter aussi que le lycée avait bien pris la mesure de l'affaire. Un conseil de discipline devait avoir lieu avec les trois collégiens ce mardi, un jour donc après la mort d'Alisha.
Valentin Boisset à Pontoise, donc dans le Val-d'Oise pour RTL, c'est bien sûr un des sujets qu'on abordera dans quelques minutes avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On parlera aussi du Covid et à ce sujet, Amandine, il y a eu ce matin un nouveau conseil de défense.
Et à la sortie, le couperet est tombé pour Nice et sa région. Le confinement le week-end est prolongé au moins pour une semaine sur tout le littoral des Alpes-Maritimes. Bonsoir Mickaël Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour RTL. La décision est loin, très loin même, de faire l'unanimité.
Oui, et à l'annonce de la nouvelle, Karine, en balade cet après-midi sur la promenade des Anglais, reste stupéfaite.
Non, j'y crois pas, c'est pas vrai, c'est une blague, j'y crois pas du tout. Non, hors de question, non.
Même incrédulité accompagnée d'un doute sur l'efficacité de ce confinement partiel pour Laurent.
Ah non, vous êtes terrible. Qu'est-ce que je vous dis? On a le droit de sortir la semaine, mais pas le week-end. Ouais. Ça fait un an que ça dure. Hein. Non, mais surtout, c'était efficace. Je voudrais bien, mais je pense pas que ce soit efficace.
De son côté, le maire de Mandelieu, la Napoule, Sébastien Leroy, regrette le manque de concertation des élus et le deux poids, deux mesures des annonces gouvernementales.
Je peux même pas vous dire qu'il y avait une unanimité, puisqu'on n'a pas été concerté, on s'est même pas réunis en audioconférence pour en parler. Et je m'étonne quand même de voir qu'on prend des mesures pour les Alpes-Maritimes et pour le Nord-Pas-de-Calais, qu'on prend pas pour Paris et ses alentours. Ça veut dire qu'en gros, ce qui est bon pour la province ne s'applique pas à Paris, qui est dans une situation qui m'a l'air d'être aussi grave que la nôtre.
Que ce soit au niveau de la population ou des élus des Alpes-Maritimes, la pilule a vraiment plus de mal à passer cette fois.
Michael Lefebvre à Nice pour RTL, une décision, on vient de l'entendre, hein, beaucoup plus difficile à comprendre, d'autant qu'en Ile-de-France, le confinement reste exclu. Le porte-parole du gouvernement l'a redit aujourd'hui pour soulager les hôpitaux sous tension. Et Gabriel Attal annonce en revanche des évacuations sanitaires.
Oui, la situation est préoccupante en Ile-de-France. La barre des 1000 patients en réanimation a été franchie. Et je redis que nous prendrons toujours les mesures nécessaires. Ça veut dire évidemment trouver des places supplémentaires pour accueillir les patients qui en ont besoin en réanimation. Il y a eu et il va continuer à y avoir un certain nombre d'évacuations sanitaires dans les jours qui viennent.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
On a l'impression que le gouvernement fait tout pour ne surtout pas reconfiner Paris et sa région, quitte à tomber dans le fameux deux poids deux mesures.
Oui, ce n'est pas qu'une impression, il y a bien une exception Île-de-France pour plusieurs raisons. D'abord sanitaire, vous venez de l'entendre, le gouvernement se donne un peu d'air artificiellement en transférant des malades ailleurs. Ça permet d'appliquer la règle voulue par Emmanuel Macron. Pas de saturation des hôpitaux égale pas de reconfinement. On prendra des mesures quand ce sera nécessaire, avance un ministre. L'idée pour l'instant, c'est de tenir et de mettre le paquet sur la vaccination. L'argument économique pèse aussi beaucoup dans la balance. L'Île-de-France et ses 12 millions d'habitants, c'est le poumon économique du pays. Et un conseiller reconnaît que cela a beaucoup compté dans la décision. D'ailleurs, dans l'entourage du chef de l'État, on continue d'expliquer qu'un reconfinement de l'Île-de-France seul n'aurait pas beaucoup de sens et qu'il faudrait dans ce cas remettre tout le pays sous cloche. Et puis, il y a un aspect pratique évident. L'Île-de-France, ce n'est pas le Pas-de-Calais, ça agace un poids lourd de la majorité qui ajoute... On ne reconfine pas des millions de personnes en claquant des doigts, même si ce genre de distinguo peut froisser, on l'a entendu, ceux qui nous écoutent en région. Et puis bien sûr, il y a l'argument politique. Un serrage de boulons entraînerait inévitablement une guerre avec les élus locaux, et notamment avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ne veut pas de reconfinement. Et le président n'a pas l'intention de lui offrir des arguments à un peu plus d'un an de la présidentielle.
Merci à vous Vincent Derosier. Et puis ajoutons que demain nous sommes jeudi, et évidemment le jeudi il y a conférence de presse du gouvernement, comme chaque jeudi ou presque. Alors a priori, pour l'instant, on annonce Olivier Véran, le ministre de la Santé. Je parle sous votre contrôle, Vincent. Pas pour l'instant de Jean Castex prévu.
Hein. On est sanitaire pour l'instant.
Un point sanitaire. Si on allait au ciné, Amandine.
Oui, puisqu'au Québec, figurez-vous que les premiers cinémas ont rouvert. Ça en fait rêver.
Donc il
plus
faut d'abord
d'un.
Aller au Québec.
Oui. Petit bémol, il n'y a pas de pop-corn. Il est interdit. Alors ça n'a l'air de rien, dit
vous
comme ça.
Vous êtes plutôt salé ou sucré?
Sucré.
Voilà, salé. On va vraiment pas aller au cinéma ensemble.
Là-bas, le pop-corn, c'est une institution. Jusqu'à 80% des revenus de certains cinémas. Oui, oui, à Montréal. Reportage signé Alexis Guécon.
Bon cinéma.
Merci.
Ça y est, les spectateurs sont de retour.
Ben, ça fait du bien un petit peu d'avoir des activités autres que les activités de plein air, là.
Ça nous fait du bien d'avoir accès à la culture, ce qu'on a pu depuis un an.
Désormais, ici, dans les cinémas, il faut porter le masque en tout temps et l'interdiction de vendre du pop-corn. C'est un vrai coup dur pour Hubert, 6 ans.
Parce que moi, j'ai toujours faim.
Donc d'habitude, qu'est-ce que tu manges au cinéma quand tu y vas?
Du pop-corn, des chips.
Le fait de ne pas pouvoir vendre de nourriture pèse lourd sur les finances. Car dans les cinémas, ici, la vente de pop-corn et de boissons compte pour 50 à 80% des revenus. C'est donc un coup dur pour Mario, qui dirige le cinéma Beaubien à Montréal.
C'est une source de revenus et surtout une source de profit parce que la marge bénéficiaire est plus grande sur les ventes au comptoir que sur la vente du billet. Dans l'équilibre d'opérer une salle de cinéma, c'est extrêmement important.
Faute de pop-corn, des petits malins ont prévu le coup. Ils viennent au cinéma avec des victuailles de la maison cachées dans leur poche.
Par contre, il n'y a pas de pop-corn, ça t'embête pas?
On a des bonbons.
Ouais, ben voilà, ils sont malins. Alexis Guécon à Montréal
pop-corn
pour RTL.
Sucré, n'importe quoi. Allez, petite pause dans un instant. Le match du jour, c'est du foot et c'est le PSG contre Barcelone.
Et vous êtes PSG ou Barça là?
Moi, je suis Paris FC, mais c'est une niche.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h12, la suite du journal Amandine Bégaud et SOS ce soir. Celui d'un enseignant qui depuis des mois se mobilise pour faire en sorte qu'un jeune Malien qui se prénomme Madama puisse rester en France.
Il l'héberge chez lui a trouvé un travail, mais cela n'a pas suffi. Depuis hier, Alexandre de Saint-Aignan, Madama est en centre de rétention administrative.
La préfecture du Puy-en-Velay refuse de lui délivrer un titre de séjour. Son acte de naissance serait faux. Même les autorités maliennes le confirment, mais celui qui se présente comme son père de cœur, Éric Durupt, ne peut pas y croire.
Malheureusement, c'est le cas de quasiment tous les papiers qui sont expertisés donc par la police des frontières, qui sont systématiquement évalués comme faux. On ne comprend absolument pas, puisque nous on sait comment donc ces papiers ont été faits. Ils ont été faits donc par la mairie donc de naissance de Madama.
Quand le jeune homme s'est présenté au commissariat hier, il a été immédiatement placé en garde à vue pour usage de faux documents, conduit dans un centre de rétention administrative à Lyon, où il pourra rester 90 jours maximum en attendant son expulsion vers le Mali.
La dernière fois qu'on a vu Madama, c'était dans une cellule. On espérait que ce n'était pas la dernière fois qu'on allait le voir, quoi. Ça a été très violent, très violent, donc d'une violence extrême.
Éric Durupt dénonce un acharnement. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté cet après-midi au Puy-en-Velay pour réclamer la libération de Madama. Un nouveau rassemblement est prévu demain à Clermont-Ferrand.
Récit signé Alexandre de Saint-Aignan. Merci à vous.
On passe au sport, le foot. Hein. Ça y est, PSG-Barça, on y est.
Et oui, match retour de 8e de finale de Ligue des Champions. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Alors on le rappelle, victoire éclatante des Parisiens à l'aller, hein, 4-1. Des Parisiens qui ont donc l'avantage. Ils sont, au moment où on se parle, sur le point de quitter leur lieu de mise au vert. L'avant-match, il faut le dire, a été soigneusement pensé.
Oui, pour aborder au mieux l'événement, c'est mis au vert. Pourtant, l'entraîneur Mauricio Pochettino n'en est pas coutumier, mais on se souvient au club qu'il y a 2 ans, Thomas Tuchel avait laissé les joueurs libres d'arriver 2 heures seulement avant le coup d'envoi au Parc des Princes contre Manchester United. L'un d'entre eux était même arrivé en retard. On connaît la suite, un couac retentissant. Pas question, cette fois-ci, de tenter le diable.
Est-ce une question de nécessité de ce que...
C'était le besoin du moment, c'est ce qu'on a senti. Le plus important dans le football, c'est de bien comprendre ce dont l'équipe a besoin à un moment précis. Et ce qu'on a ressenti, c'est le besoin d'être ensemble pour livrer la meilleure performance.
Voilà, c'est trouver le juste équilibre, évacuer la pression, mais entretenir la concentration. Barcelone va jouer son va-tout ce soir. Hein. Il faudra défendre. Les Parisiens y sont préparés. L'idée est de piquer en contre avec notamment la vitesse de Kylian Mbappé.
Ça va passer, non?
PSG Barça, en tout cas, c'est à suivre sur RTL, bien sûr, RTL Foot, dès 20h45 avec Eric Silvestro et Xavier Domergue. Et puis, vous savez, notre métier, c'est de vous informer. Alors, évidemment, Amandine, pendant son journal, surveille le match de Roger Federer à Doha face à Evans.
Un set partout
et 3-2 dans le troisième set entre les deux hommes. Évidemment, on suivra ça en fil rouge.
Ben oui.
La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et on n'aura bientôt plus besoin, Thomas, de passeport ni de carte d'embarquement pour prendre l'avion. Vous m'écoutez ou pas ?
C'est vrai que j'ai dit 3-2 entre les deux hommes. C'est 3-2 pour Federer, pardon. Que 3-2 entre les deux hommes,
si vous écoutez,
je vais me faire allumer par Cavrivière encore. Moi.
Alors, on n'aura bientôt plus besoin ni de passeport, ni de carte d'embarquement pour prendre l'avion. Votre œil suffira.
Mon œil.
Et oui, un simple contrôle de l'iris, ça fait un peu science-fiction. Mais ça existe déjà à l'aéroport de Dubaï depuis le mois de février. L'avantage, c'est que c'est plus rapide, ça évite les files d'attente, on ne perd pas de papier non plus, et ça limite aussi les risques en ces temps de crise sanitaire.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Bon, après, les données sont-elles gardées ou pas, tout ça, ça pose d'autres questions, mais c'est pas mal.
C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous, Amandine. Dans un instant, alors que le cyberharcèlement est un problème de plus en plus grave à l'école, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est l'invité d'RTL Soir. Entretien à suivre en vidéo sur RTL.fr.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, et l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jean-Michel Blanquer.
Bonsoir, Thomas Soto.
La mort d'Alisha, 14 ans, est un drame qui secoue le pays, mais qui secoue aussi l'école. Quelle est la réaction du ministre de l'Éducation que vous êtes, à part peut-être l'impuissance ?
Non, je ne crois pas que ce soit l'impuissance qu'il faille souligner. Je pense que c'est d'abord, évidemment, l'immense solidarité que nous éprouvons pour la famille de cette jeune femme et les pensées que nous avons pour elle. Ceci nous rappelle tout simplement l'horreur qu'il peut y avoir résultant de la violence, parfois entre adolescents, parfois de manière un peu inconsciente. Et cette horreur, elle résulte aussi de l'effet d'amplification que les réseaux sociaux ont aujourd'hui. On commence à savoir que dans cette affaire, c'est une affaire de diffusion d'images qui peut être à l'origine des querelles et puis qui prennent ce tour dramatique. Cela nous alerte sur le fait qu'on doit toujours plus lutter contre le harcèlement scolaire, ce que nous faisons, et d'ailleurs il commence à y avoir une diminution du harcèlement scolaire, mais lutter aussi contre le cyberharcèlement scolaire.
Et là, les deux semblent être liés, Jean-Michel Blanquer. C'est visiblement un problème de harcèlement qui était connu de l'école, puisque l'auteur présumé des faits devait passer en conseil de discipline hier soir. Est-ce qu'il y a eu un raté? Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'établissement scolaire?
Non, c'est beaucoup trop tôt pour dire cela. C'est un établissement privé sous contrat qui, semble-t-il, a fait le travail en matière de conseil de discipline. Il ne pouvait pas forcément prévoir ce qui s'est passé en dehors de l'établissement ensuite entre ces jeunes. Mais c'est évidemment les suites de l'enquête qui permettront de déterminer. Je me garde bien de tout jugement à ce stade. Ce qui est certain, c'est qu'on doit être tous mobilisés contre cette violence. Il y a des actions très concrètes contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Il y a des numéros de téléphone. Hein. Pour le cyberharcèlement, c'est le 0800 200 200. Contre le harcèlement, c'est le 30 20. Il y a tout un travail que nous faisons avec les associations de prévention du cyberharcèlement. Et nous avons maintenant des référents anti-harcèlement dans chaque établissement. Nous impliquons les élèves dans ce rôle d'ambassadeur anti-harcèlement dans chaque établissement.
Vous dites que ça commence à baisser, le harcèlement scolaire, vous avez des chiffres, parce que ce n'est pas le sentiment forcément qu'on peut avoir.
Le harcèlement scolaire, c'est un fléau qui touche environ 10% des élèves. C'est un fléau d'ailleurs dans tous les pays du monde. Ce n'est pas un fléau d'hier d'ailleurs, mais c'est un fléau qui avait pu s'accentuer tout au long des dernières années. À force de volontarisme, il y a une légère baisse des remontées que nous pouvons avoir en matière de harcèlement.
Que vous savez chiffrer ou pas encore?
D'environ un point ou deux depuis deux ans. Nous nous sommes inspirés de pratiques scandinaves, en particulier sur les méthodologies pour lutter contre le harcèlement, et notamment avec des campagnes de communication très importantes vis-à-vis des élèves. Et vous avez beaucoup d'élèves maintenant qui se saisissent de cela, et des établissements qui réussissent à vraiment créer un climat scolaire propice à la lutte contre le harcèlement.
Mais souvent, les problèmes de harcèlement débutent à l'école et se prolongent sur les réseaux sociaux, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, les profs, les enseignants sont assez sensibilisés pour détecter ce qui se passe hors les murs? Est-ce que c'est leur boulot, en fait?
C'est un travail difficile. Nous avons maintenant prévu la systématicité de la formation à la lutte contre le harcèlement lors de la formation des professeurs. Nous le faisons aussi en formation continue. Nous donnons des outils aussi de terrain. C'est une question de responsabilisation des adultes, pas seulement les professeurs, les parents bien sûr d'abord, les professeurs aussi, mais l'ensemble des personnels, des adultes qui travaillent dans les établissements. Lorsque vous traversez la cour et que trois enfants sont en train de taper un quatrième, il est évident que même si c'est pas pendant votre exercice de responsabilité, il faut intervenir dès lors que vous êtes un adulte. Et ce sont des réflexes de tous les jours.
Mais ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Mais est-ce que la vigilance de l'éducation nationale et des enseignants doit s'ouvrir à ce qui se passe sur les réseaux, hors les murs de l'école?
Oui, bien sûr. Et là, c'est le travail de l'institution. C'est pour ça que nous avons un travail en lien avec les plateformes. C'est pour ça que nous avons un travail avec les associations, qu'il y a les numéros que je citais tout à l'heure, de façon à ce que nous ayons cette surveillance. Mais c'est vrai que la période du confinement en particulier a démultiplié le cyberharcèlement. Et je vous disais qu'on a des premiers résultats sur le harcèlement. En revanche, sur le cyberharcèlement, il faut reconnaître qu'il s'aggrave. Là aussi, c'est un phénomène mondial. D'où les mesures que nous prenons, notamment de relations avec les plateformes et de veille sur ces questions.
Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux mineurs? Aujourd'hui, quand on a 13 ans, on fait une déclaration, on dit « oui, j'ai 13 ans, c'est bon, on peut s'inscrire ». Est-ce que vous souhaitez qu'on aille plus loin sur ce sujet-là?
En tout cas, cela mérite réflexion. Ce qui est certain, c'est que nous accentuons aussi la formation des enfants et des adolescents au risque d'Internet. Désormais, vous savez, il y aura une certification en matière informatique pour les élèves, pas seulement sur le plan technique, par exemple, pour qu'ils aient un certain niveau de programmation, mais aussi sur le plan déontologique, pour apprendre les usages. C'est un enjeu de coopération accentuée entre les parents et l'école, et c'est un point aussi sur lequel nous voulons de plus en plus être en dialogue avec les parents.
Mais l'interdiction des réseaux sociaux mineurs, vous ne dites pas non? Vous n'êtes pas contre?
Écoutez, je pense que tout doit être sur la table. Je ne dis pas que c'est une mesure forcément souhaitable et certainement pas facile, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde où les réseaux sociaux sont très forts et c'est difficile de faire en sorte que les adolescents n'y aillent pas. Nous avons interdit le téléphone portable en collège. C'est une mesure qui a eu beaucoup d'effets positifs, avec plus de concentration des élèves, moins de fréquentation des réseaux sociaux. Et on a des retours très positifs de l'effet de cela. Donc il faut vous prendre des mesures de ce type, ça ne va pas forcément jusqu'à l'interdiction des...
Peut-être relever l'âge de 13 ans,
peut-être relever l'âge. En tout cas, je suis très ouvert à toutes les propositions qui, dans le futur, nous permettront de mieux maîtriser le phénomène.
Jean-Michel Blanquer, on a appris cette semaine que la collégienne qui avait dénoncé les cours de Samuel Paty n'y était pas, n'avait pas assisté à ces fameux cours. Dans cette affaire, on a le sentiment que tout le monde savait que ce prof était menacé, l'académie était prévenue. Aujourd'hui, avec les quelques mois de recul que l'on a, est-ce que vous dites vraiment qu'il y a eu un loupé tragique dans la mort de Samuel Paty?
On est encore au milieu de cette enquête, donc il faut évidemment éviter de la commenter alors qu'elle est en train de se faire.
Mais on voit quand même des éléments.
On a un rapport de l'inspection générale qui nous montrait déjà le fait qu'elle avait très probablement menti. Là, la nouveauté, c'est le fait qu'elle ait avoué. Mais sinon, nous le savions. Ce serait beaucoup trop long de rentrer dans tous les détails de l'enquête. Il y a ce qui relève de l'éducation nationale, où un certain nombre de choses ont été faites pour réagir à la menace qui pointait pour Samuel Paty. Puis il y a tout ce qui relève aussi de la police et on verra ce que l'enquête dira.
Reste un climat inquiétant. Aujourd'hui, on a vu les noms de deux profs affichés en place publique sur le mur d'entrée de l'IEP de Grenoble. Ils sont accusés d'islamophobie et de fascisme. Et là, on se dit qu'un deuxième drame comme celui qu'a vécu Samuel Paty est possible. Quelle est votre réaction face à ça?
Nous devons en finir avec les logiques de stigmatisation en place publique qui nous rappellent les pires heures du Moyen-Âge, d'une certaine façon, quand on veut stigmatiser des personnes à raison de leur opinion. Il faut qu'on fasse la distinction aussi dans d'autres pays entre le débat d'idées et la stigmatisation des personnes. Le débat d'idées doit être extrêmement libre, doit permettre le plus possible de pouvoir dire ce que l'on pense. En revanche, on ne doit pas pointer des personnes et encore moins le faire dans une perspective qui crée du danger pour ces personnes. Et c'est ce qui se passe dans cette affaire.
Et ceux qui sont à l'origine de ça ont-ils leur place dans un établissement de la République aujourd'hui?
Il est évident qu'il y a probablement des sanctions disciplinaires à envisager, mais c'est à l'établissement de le voir. Il est évident que cela doit être condamné, que chacun doit prendre ses responsabilités en ces matières. Mais encore une fois, il y a des gens qui jouent un jeu dangereux quand ils se mettent dans cette logique de stigmatisation.
Jean-Michel Blanquer, on va parler un peu du Covid, avec quand même une bonne nouvelle pour commencer. Ce sont les CP dont vous nous dites, vous l'avez dit dans Le Monde hier, qu'ils ont rattrapé leur retard qu'ils avaient pris pendant le confinement il y a un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire quoi?
C'est une très bonne nouvelle que nous avons depuis deux jours. C'est la remontée de ce qu'on appelle les évaluations de mi-CP, autrement dit des évaluations que passent tous les élèves de France en cours préparatoire, non seulement début septembre, mais aussi à la fin du mois de janvier. Et cela nous permet de voir l'évolution de leur niveau. Ça fait partie des outils que nous avons développés pour tout simplement avoir une reconquête des savoirs fondamentaux à l'école primaire, que lire, écrire, compter, respecter autrui deviennent des réalités dans la transmission des savoirs et des valeurs que nous réalisons à l'école. Et donc, nous avions vu au mois de septembre un affaissement qui était incontestablement lié à la période de confinement, un affaissement relatif, mais quand même. Et là, ce que nous voyons, c'est que, grâce au travail des professeurs et au fait que nous avons maintenu les écoles ouvertes, et ce qui était vraiment une force de la France dans les circonstances actuelles, eh bien, les élèves de CP fin janvier 2021 font mieux que les élèves de CP fin janvier 2020.
Donc, y compris dans les quartiers défavorisés ?
Y compris dans les quartiers défavorisés, en français et en mathématiques. Simplement, en français, le progrès de ceux qui sont hors éducation prioritaire est encore plus fort que le progrès de ceux qui sont en éducation prioritaire. Donc, ça veut dire qu'en français, on doit encore mettre la démultiplier pour que des élèves qui, d'ailleurs, parfois peuvent avoir en famille des problèmes de maîtrise du français, justement, eh bien, puissent être toujours plus accompagnés de façon à ce que les 10-15% d'élèves qui, à ce stade de l'année, ne sont pas encore entrés en lecture, puissent y entrer vraiment, parce qu'on sait bien que c'est la racine de toutes les réussites, ou au contraire des échecs, qu'il peut y avoir ensuite. Donc ça reste ma priorité absolue. Et le fait qu'on ait cette bonne nouvelle en pleine période d'épidémie nous dit bien que c'est vital d'avoir les écoles ouvertes et que c'est vital de garder nos
donc,
priorités.
Donc ça reste la règle, les écoles ouvertes, ça reste la règle, même dans les départements comme les Alpes-Maritimes, dont on a appris tout à l'heure qu'elles allaient rester confinées le week-end, même dans les régions comme le Pas-de-Calais, même si l'épidémie galope, la règle reste l'ouverture des écoles partout dans le pays.
Et avec le président de la République et le Premier ministre, nous disons depuis le début, la dernière chose qui doit fermer, c'est l'école. Ça ne veut pas dire que ça ne ferme pas, ça veut dire que c'est ce qui ferme quand tout le reste à fermer.
Mais là, vous l'envisagez, ailleurs, la fermeture dans les semaines
qui viennent ? On a toujours envisagé de façon localisée que ce soit possible. Et nous le faisons d'ailleurs. Il y a en permanence environ 0,2% des classes et des établissements qui sont fermés parce que nous prenons des mesures ciblées en fonction des situations
locales. Ça fait combien d'écoles ou de classes à peu près ?
Ça peut faire autour de 200 classes fermées par exemple en même temps en France, quelques dizaines d'écoles parfois, ça dépend des moments.
Et là c'est stable ou ça augmente en ce moment ?
Non, ces derniers temps c'est stable, on est en retour des vacances de février, donc il y a eu une petite augmentation lors de la première semaine et ça se stabilise, je vous dis autour de 0,2-0,3% des classes et des établissements.
En tout cas la fermeture des écoles, des établissements scolaires n'est pas d'actualité aujourd'hui.
Nous sommes extrêmement pragmatiques, vous savez, nous avions un conseil de défense ce matin, nous en avons très régulièrement, nous travaillons évidemment de manière très étroite avec le ministère de la Santé, ce qui nous permet d'appliquer d'ailleurs la stratégie tester, alerter, protéger de manière encore plus accentuée désormais avec les tests salivaires, et ce pragmatisme nous amène à reconsidérer les choses en permanence. Donc rien n'est impossible, mais encore une fois, un de nos buts fondamentaux, pour que la jeunesse soit notre priorité absolue et que donc nous préservions l'avenir de nos enfants et de nos adolescents.
Pardon, mais non, rien n'est impossible, mais aujourd'hui, juste pour qu'on comprenne bien, j'imagine les parents qui vous écoutent, c'est pas d'actualité dans les jours ou les semaines qui viennent.
Non, non, c'est pas d'actualité.
Comment se passe la vaccination des enseignants ?
La vaccination, vous savez, se déroule en population générale, selon une logique qui est d'aller d'abord vers les plus vulnérables, puis vers les moins vulnérables. C'est pour ça que c'est les personnes âgées qui sont d'abord vaccinées, et puis ceux qui ont des comorbidités. Donc,
aujourd'hui, les enseignants ne sont pas un public prioritaire en tant qu'enseignants.
Non, parce qu'il n'y a pas de définition professionnelle à ce stade des priorités, il y a une définition par vulnérabilité. Évidemment, quand un professeur est en situation de vulnérabilité, il est vacciné, c'est ce qui commence à se passer pour ceux qui ont plus de 50 ans et une comorbidité.
Mais vous l'aviez envisagé, vous, que les profs deviennent prioritaires ?
Oui, c'est évidemment une hypothèse.
Vous le souhaitez toujours ?
C'est quelque chose qui se regarde, puisqu'on va avoir plus de vaccins à partir du mois d'avril. Mais pour l'instant, encore une fois, il est logique et rationnel que l'on aille, en fonction des vaccins disponibles, du plus vulnérable au moins vulnérable.
Et rendre la vaccination obligatoire pour les profs ?
On n'en est pas là. Vous le savez que le débat est actuellement sur les personnels soignants. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un sujet d'actualité.
Mais quelle est votre opinion sur le sujet ? Est-ce que...
Je pense, de façon générale, que le vaccin doit être répandu dans notre société. C'est une question d'intérêt général.
Alors, on a un peu des informations contradictoires. On est tous un peu balancés sur le Covid. On nous dit ça galope ici, ça ralentit là. On nous parle peut-être d'une éclaircie d'ici 4 à 6 semaines, hein, pour reprendre les termes de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il y a quelques jours. Est-ce que ça veut dire que d'ici 4 à 6 semaines, si on poursuit le rythme de vaccination, on pourrait reprendre l'école comme avant, partout ? Est-ce que ça, c'est un sujet ou est-ce que ça, aujourd'hui, c'est de la science-fiction ?
Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est évident que nous devons, dans tous les domaines, réussir le plus possible un retour à la normale progressif. Bon, s'agissant du monde scolaire, on réussit quand même aujourd'hui à ce que les élèves aillent à l'école. Là, l'exception à ce que je suis en train de dire, c'est
le lycée
ou dans un certain nombre de lycées, environ les deux tiers, vous avez une hybridation de l'organisation. Donc, en partie en présence, en partie à distance. Et évidemment, il est préférable que les lycéens retrouvent tous le chemin à plein temps du lycée.
C'est un objectif à mi-avril, ça, par exemple ?
Ça pourrait l'être, mais bien sûr, c'est tout à fait envisageable. Il y a d'ailleurs des endroits où le virus circule moins désormais et où cela se fait. Nous avons voulu être pragmatiques en ayant des solutions lycée par lycée. Mais évidemment, c'est particulièrement vrai pour les élèves de terminale. Nous souhaitons qu'ils retrouvent à 100% le chemin du lycée.
Une dernière question, justement, pour ces élèves de terminale. Un sondage a montré hier que plus de 7 lycéens sur 10 redoutent d'avoir un bac dévalué. Vous leur répondez quoi ?
Que, heureusement, ça n'est pas le cas.
Ça sera 100% contrôle continu cette année encore ?
Non. Vous savez, la logique du nouveau baccalauréat, c'est 60% contrôle terminal, 40% contrôle continu. Compte tenu des contraintes sanitaires, il y a des épreuves qui étaient au mois de mars, prévues au mois de mars, dont nous avons établi qu'elles seraient en contrôle continu. Donc ça correspond aux enseignements de spécialité. Comme les élèves le savent depuis le mois de janvier, ça signifie qu'ils ont entre janvier et juin aussi pour essayer d'obtenir les meilleures notes possibles. Nous objectivons ce contrôle continu au travers de commissions d'harmonisation et de critères d'objectivation. Donc non, c'est au contraire un bac qui reprend de la force avec la réforme du bac parce que
il y
aura des examens écrits au mois de juin avec l'épreuve de philosophie d'une part et le fameux grand oral qui est une des grandes innovations de ce nouveau baccalauréat qui va permettre justement aux élèves de montrer leur compétences. compétences orales. Il y a aussi d'autres choses, hein, notamment les fameux enseignements de spécialité qui représentent une innovation de cette année. Et puis les élèves de première passeront le baccalauréat de français normalement dans les conditions habituelles.
Donc ils n'auront pas un bac au rabais ?
Non, en aucun cas. C'est même le début d'un rebond de la valeur du baccalauréat que l'on voit cette année 2021, puisque le principe de la réforme, encore une fois, c'est d'avoir permis aux élèves de plus choisir au travers des enseignements de spécialité plutôt que d'avoir des séries toutes faites et ce faisant de plus approfondir. Et c'est vrai aussi dans le baccalauréat technologique et dans le baccalauréat professionnel auquel je porte une attention particulière, où avec d'autres approches de la réforme, nous sommes arrivés à ce qui est finalement plus de motivation, plus de plaisir à travailler, donc plus d'approfondissement.
Merci Jean-Michel Blanquer d'être venu dans RTL Soir. Au fait, les tests salivaires pour les petits en maternelle, ça marche bien en maternelle primaire ?
Oui, ça se déploie actuellement. Notre objectif, c'est toujours 300 000 hebdomadaires.
Vous en êtes à combien ?
On commence à franchir le seuil des 150 000 hebdomadaires. Donc c'est évidemment quelque chose de simplifié par rapport aux tests nasopharyngés qui étaient plutôt pour l'enseignement secondaire jusque-là.
Et qui sont assez désagréables. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci.
Merci à vous.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et le rappel des titres de l'actualité avec vous, Amandine Bégaud.
Et elle a une ce récit glaçant du procureur de la République de Pontoise après la mort avant-hier d'une adolescente de 14 ans jetée dans la Seine par deux de ses camarades. Le magistrat évoque un guet-apens minutieusement préparé, des coups et une victime jetée à l'eau encore vivante. Les deux jeunes mis en cause, un garçon et une fille de 15 ans, devraient être mis en examen ce soir sans doute pour assassinat. Dans l'actualité également, le confinement prolongé pour au moins un week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes. C'est ce qu'annoncé tout à l'heure le porte-parole du gouvernement à l'issue d'un nouveau conseil de défense. Et puis il y a du foot ce soir, PSG-Barça, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Ce sera à suivre dès 20h45 sur RTL. Avant cela, Marseille-Rennes, match en retard de Ligue 1, la première des deux nouveaux entraîneurs.
La météo, Peggy Broche, pour demain, ça va souffler, c'est ça ? Il y a du vent ?
Exactement, il y a du vent. Et d'ailleurs, le Nord et le Pas-de-Calais sont déjà en vigilance orange, vent violent, puisque ça va souffler dès ce soir. Demain, du vent sur les trois quarts nord du pays avec de la pluie, une zone de pluie continue entre les Charentes et le Nord-Est. La perturbation va glisser vers le sud. Les régions à l'écart de cette perturbation, les Pyrénées, les Alpes, entre les Pyrénées et les Alpes et la Corse. Il fera beau, le tout sous des températures en hausse de 10 à 20 degrés pour les maximales.
Et Roger vient d'avoir une balle de match, mais alors, il a raté. Ça continue, hein, c'est partout toujours et 5-4 dans le troisième en faveur du Suisse. Nous sommes quel jour ? Nous sommes mercredi.
Nous
donc
sommes mercredi,
c'est l'œil de Valérie Trierblas. C'est pour ça que vous êtes là. Bonsoir Valérie.
Exactement.
Bienvenue à vous. Votre œil qui se pose ce soir sur un scandale royal.
Oui. Vous savez, lundi, je me suis fendue d'un post sur Instagram au sujet de Meghan Markle.
Ouais.
Après tout, tout le monde donnait son avis. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi ? Vous savez, c'était le jour de l'interview donnée à Oprah Winfrey. Vous savez bien sûr de qui je parle.
Ouais, bien sûr.
C'est un peu la Thomas Soto américaine.
Je vais prendre cher.
En noir. Et en femme. Et en milliardaire. Et en très connu. Bref, ça n'a rien à voir.
Bah voilà. Ouais. Donc,
il y a quand même un axe trieur-veilleur-cavrivière en train de se dessiner qui est très dangereux pour moi. Mais allez-y.
Bon, enfin donc, j'écris sur Instagram que s'il fallait choisir son camp, le mien serait celui de Meghan. Après tout, elle est une femme libre et j'aime ça. Donc je lui réaffirme aujourd'hui mon soutien.
Mmh. Et qu'est-ce que ça a suscité ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, vous n'imaginez pas le déferlement de commentaires. Je crois que j'en avais jamais eu autant. Des pour, des contre. Comme si l'humanité était divisée en deux, les pro-Meghan, les anti Meghan. Je crois même que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Et puis en fait, je me suis dit, elle me rappelle quelqu'un dans l'Antiquité.
Qui ?
Comme si, Meghan, comme si elle était une sorte de réincarnation de Messaline, l'épouse de l'empereur Claude, la mère de Britannicus. Là, je vous parle d'une époque qu'on n'a pas connue, 41 après Jésus-Christ. Mais vous savez, c'était une femme qui avait une conduite scandaleuse. Je ne dis pas que Meghan l'a, même si on lui reproche d'être une femme divorcée, mais c'était aussi une impératrice qui participait aux intrigues de palais, etc. On arrête là les comparaisons. Comme je le disais, elle avait des mœurs un peu débauchées, débridées. On n'en est pas là. Mais et en plus, Messaline a très très mal terminé. Après une tentative de suicide, elle a été tuée par un soldat sur demande de son mari.
Bouf. Meghan Markle, c'est quand même petite joueuse à côté, et c'est tant mieux.
Oui, mais vous savez, c'est parce que le couple a préféré la fuite. Sinon, et l'exil, comment ce serait terminé ? Meghan l'a dit, là j'ai un ton un peu plus grave, elle-même, elle dit qu'elle a songé au suicide. Pourquoi ne pas la croire ? Et n'est-ce pas une mort à petit feu que d'être chaque jour attaquée comme ça, avec une telle violence ? Bon, voilà, mais qui alimente les tabloïds ? Qui alimente cette violence ? Ce sont les gens du palais, de Buckingham, comme à l'époque de Diana.
Mais en quoi Meghan était-elle une cible? C'est ça qui est un peu dur. Quand on n'est pas né complètement dans Buckingham, on se dit pourquoi elle était une cible?
Dès le départ, en fait, elle avait tout pour déplaire. Elle est roturière, elle est américaine, elle est divorcée, elle est actrice, elle est un peu plus âgée que son mari, et en plus, elle est métisse. Ça fait beaucoup pour une altesse royale. Bref, en deux mots, trop libre, trop moderne. Voilà. Et pourtant, on l'a vu, hein, au début, elle a tenté d'être parfaite, elle a tenté de s'intégrer, elle se mettait en retrait, elle faisait la référence correctement, elle portait des petites robes assorties à la couleur de son bibi, ou l'inverse. Mais c'est pas la couleur de ses robes qui posait problème, c'était bien celle de sa peau. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a débat. Est-ce que la couronne est raciste? Les Anglais, étrangement, sont très ouverts au respect des religions, mais ils le sont moins sur la couleur de la peau. Meghan a été la première personne métisse à entrer dans la famille royale, et en fait, elle n'y est jamais rentrée. Mmh. Et on comprend que le jour où elle a compris qu'on s'inquiétait pour la couleur de peau de son enfant, que ça a été la goutte d'eau qui fasse déborder le vase.
Même si ça a été ça, la reine a dit c'est pas. Enfin, Oprah Winfrey a dit c'est pas la reine, c'est pas le prince Philippe.
Oui, voilà. Et depuis, la reine d'ailleurs a rétabli les choses très subtilement. Elle en a tellement vu, la reine, elle n'est plus à sa près.
Mais qu'est-ce qui va se passer alors maintenant?
Maintenant, ils vont s'inventer une nouvelle vie. Hein. Ils ont d'ailleurs commencé. Ils ont signé des contrats juteux avec Netflix et Spotify, comme les Obama d'ailleurs. Et puis c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent montrer qu'ils ont quasiment l'influence de l'ex-couple président. Alors que la monarchie anglaise perdra toute sa splendeur et même sa raison d'être après Elisabeth II. Enfin, d'ici là, la Queen, la grande Queen Elisabeth, devrait fêter ses 70 ans de règne le 6 février 2022. Très exactement. Et là, je vous prends tous les paris, Thomas. Je suis sûre que Meghan et Harry seront là pour la grande réconciliation.
Ah, ça, c'est un sacré pari. Rappellera le 6 février 2022.
Voilà, je serai là.
Je vais tout de suite regarder pour m'assurer que...
Ça tombe à mercredi.
Ça tombe à mercredi, attendez. Hop, je déroule les mois sur mon téléphone.
Vous entendez l'hymne anglais.
Le 22 février, c'est ça? C'est un mardi.
Le 6 février 2022.
Le 6 février. Vous êtes maligne, vous, c'est un dimanche. Allez, merci beaucoup à vous,
merci,
Valérie.
Merci, bonsoir à tous.
Demain, c'est évidemment Philippe Cavrivière qui sera avec nous pour nous donner son regard sur l'actualité. Vous êtes sûrement demandé ce qui se raconte dans les confessionnaux. Vincent Mongaillard, lui, le sait. Il a enquêté, il a fait parler des prêtres, il en a même fait un livre. Je vous pardonne tous vos péchés. Vincent Mongaillard qui vient expurger ses péchés et quand même nous raconter tout ça juste après la pub.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto, RTL Soir.
Je vous pardonne tous vos péchés. 40 prêtres dévoilent les petits et grands secrets de la confession et forcément ça attise notre curiosité. Je vous pardonne tous vos péchés. C'est le titre du livre que vous publiez, Vincent Mongaillard. Livre qui sortira demain aux éditions de L'Opportun. Bonsoir et bienvenue à vous dans RTL Soir.
Bonsoir.
Nous voici donc grâce à vous, petite souris aux oreilles et aux yeux grands ouverts dans le confessionnal. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça d'aller écouter aux portes?
Eh bien parce que le confessionnal, c'est finalement le dernier endroit où on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. C'est l'objet de beaucoup de fantasmes. Ça a été souvent le héros de films. Tout le monde a vu un confessionnal en entrant dans une église, ce meuble avec des espaces clos. Oui. Mais effectivement, comme il y a le secret absolu de la confession...
Le principe, c'est qu'on ne raconte pas ce qui s'y passe normalement.
Voilà.
Maintenant les curés sont des balances, les clients vont se faire rare au confessionnal, non?
Mes curés ne sont absolument pas des balances. Le secret de la confession n'a pas été brisé. Ils m'ont raconté des histoires, mais on ne peut absolument pas identifier les pénitents. Ils n'ont pas donné des dates précises. Ils apparaissent simplement sous leur prénom. Voilà, le père Benoît, il y en a 500 en France. Donc, voilà, aucune trahison.
Vous avez réussi facilement à les faire parler ou pas?
Ah ben, ça a été un vrai chemin de croix.
Oh, joli.
Parce que effectivement, il fallait établir un climat de confiance pour qu'ils puissent se livrer. Je m'occupe moi au Parisien, le journal Le Parisien, depuis quelques années de religion. Donc j'ai d'abord sollicité les prêtres que je connaissais, avec qui on avait pu établir un rapport de confiance. Mais avant qu'ils vous distillent une anecdote très précise, c'est quand même 2 heures de discussion.
Ah oui.
Ils vont d'abord sur les banalités, effectivement sur l'effet libérateur qui est véritable, hein, de la confession. Et puis après, il faut rentrer dans les histoires. Mais ils étaient évidemment sur leur garde, mais ils ont quand même réussi à me balancer quelques anecdotes croustillantes.
Il y a du savoureux. Alors vous
racontez notamment l'histoire de ce curé qui avait une femme, puis son mari venir confesser leur adultère, et il s'est aperçu en croisant les témoignages qu'ils avaient le même amant, hein, que le voilà, monsieur était l'amant à la fois de monsieur et de madame.
Parfois, effectivement, c'est vaudevillesque, qu'il y a un peu de fait d'eau dans le confessionnal, mais il y a aussi des choses très graves. Je pense notamment à ce prêtre qui est aumônier en prison et qui confesse un détenu qui va lui avouer son crime. Et puis, quelques mois plus tard, ce même détenu à son procès, donc devant la justice des hommes, en cour d'assises. Et là, il nie le crime et il est finalement acquitté. Imaginez après le problème de conscience pour le prêtre.
Et vous le citez, vous dites, le prêtre dit, j'ai très mal vécu cet acquittement, je ressens toujours un énorme dégoût. Je me suis fait avoir, mais ils n'ont pas une obligation de parler dans certains cas. Dans ces cas-là, la loi de la République ne prend pas le dessus sur la loi de Dieu.
Jamais, jamais. C'est jamais. Le secret absolu de la confession. Vous pouvez dire à un prêtre les pires atrocités, les pires horreurs. Un pédophile peut se confesser à un prêtre. Il a l'assurance, la garantie qu'il ne sera pas dénoncé à la police par le prêtre. En revanche, ce que peut faire le prêtre et ce qu'incite aujourd'hui l'épiscopat, c'est d'inviter le pénitent, donc la personne confessée, à se dénoncer à la police. Ça, il y a un devoir d'incitation.
Ouais. En revanche, avec un taux de réussite, j'imagine, quand même assez faible, globalement, non?
Oui, sauf s'il va lier le pardon, en fait, à cet acte. Ouais. Il peut faire la confession en deux temps, lui dire écoutez, allez d'abord vous dénoncer, après on se revoit et je vous accorde le pardon. Mais dans les cas, effectivement, ça se fait que très rarement.
Comment ils vivent ces confessions, alors légères ou plus lourdes, comme vous venez de l'évoquer, ces curés, ces prêtres, ils disent, il y en a un qui vous dit, il faut bien qu'on prenne de la distance, sinon on se tire une balle dans la tête. C'est lourd à porter tout ça?
Ben oui, parce qu'ils sont le réceptacle de toute la misère humaine, l'humanité aussi, dans parfois ce qu'il y a de plus crasse. Donc c'est éreintant. Tous les prêtres qui font des séances de confession, ça dure parfois 3-4 heures, hein, vous diront qu'à la fin, ils en ont plein le dos. Alors ils se consolent en se disant, c'est le Seigneur qui porte les péchés. Mais dans les faits, finalement, il reste quand même l'intermédiaire. Et donc, pour eux, ça peut être effectivement extrêmement épuisant. Mais en même temps...
Mais ils aiment ça c'est une partie de leur job, entre guillemets, qu'ils apprécient globalement?
Oui, ils adorent ça parce que ils voient en direct l'effet libérateur de leur pardon. Vous pouvez transformer une vie en accordant le pardon à quelqu'un. Mmh. Vous pouvez dire tout le mal que vous avez fait, les pires choses à un prêtre. Vous savez que vous allez être pardonné. Alors parfois, c'est conditionné à un acte de contrition. Il faut aussi reconnaître soi-même sa faute. Il y a souvent aussi un acte de réparation. Mais dans tous les cas, il y a quand même un pouvoir magique, unique quand même dans notre société, qui a tendance quand même à systématiquement nous condamner, à nous culpabiliser. Ouais. Là, vous êtes sûr d'obtenir le pardon.
Alors, il y a du plus léger, hein, des enfants qui viennent parfois dire qu'ils n'ont pas rangé leur chambre, et là, le curé répond « J'ai envie de les sermonner, mais Dieu s'en fout.
» Oui, et puis, il y a parfois des choses encore plus drôles, parce que les enfants, ils viennent sans aucune pudeur et avec toute leur naïveté. Donc, le gamin qui adore le foot va dire qu'il va confesser, ne pas faire assez de passe dans son club de foot. Il y en a un autre chez les scouts qui va confesser avoir coupé une queue de lézard ou avoir craché dans le verre de son copain. Ça, c'est un peu plus léger.
Il y a du monde qui va se confesser, ça se fait encore beaucoup. Là, c'est le carême en ce moment, donc il y a un des prêtres qui parle du grand nettoyage de printemps, le moment où tout le monde va vider son sac.
Oui, puisque les semaines qui précèdent la plus grande fête catholique avec Noël, donc c'est Pâques, on est à un mois de Pâques. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est l'embouteillage, hein, ouais. Surtout en cette période de Covid dans les églises, mais c'est effectivement la période de l'année où tout le monde, tous les croyants vont aller faire leur Pâques. C'est de là que vient l'expression faire ses Pâques, c'est donc aller se confesser. Le catéchisme de l'Église catholique vous oblige chaque croyant pratiquant à se confesser au moins une fois par an, donc c'est plutôt en ce moment. Après, aujourd'hui, en fait, les prêtres vous diront qu'en termes de quantité, ça a diminué. En revanche, on a gagné en en qualité, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui une confession plus en profondeur. Il y a un renouveau de la confession, notamment chez les jeunes, parce que la confession, c'est un sacrement. Hein, c'est, ouais. Chez les catholiques, c'est extrêmement important. C'est comme le baptême, la communion. Ou le mariage. Et donc, on est moins sur quelque chose un peu d'automatique, routinier, comme on pouvait voir chez les aînés qui allaient se confesser juste pour avoir le droit d'aller communier.
C'est aussi un peu le bureau des réclamations, le bureau des plaintes, le confessionnal. Et le pape en prend pas mal dans la figure, il n'est pas épargné. Qu'est-ce qu'il lui reproche au pape ?
Alors, le pape François, vous le savez sans doute, il est très populaire chez les non-croyants, mais extrêmement clivant chez les catholiques du monde entier. Et il se trouve que les prêtres ont constaté, depuis que le pape François a accédé au trône de Saint-Pierre en 2013, un afflux de péchés qui visent directement la papauté. Les croyants ont du mal avec les propos du pape qui va dire « nous sommes tous des migrants » ou bien à évoquer les catholiques comme des lapins reproducteurs. Donc, il y a le péché de médisance contre le pape François qui est très en vogue.
Vincent Montgaillard, est-ce que vous êtes allé à confesse, vous ?
Alors moi, je ne pratique pas, mais parfois ça
c'est
pourrait être un libérateur.
C'est le moment, qu'avez-vous à confesser ? Vous pouvez y aller en entre nous.
Alors ça, c'est tellement intime que je vais vous renvoyer la question. Vous, Thomas Soto, qu'est-ce que vous auriez envie de confesser
Je vais vous confesser que en vous interrogeant, en vous écoutant attentivement, j'avais un œil sur Federer qui a gagné son match en même temps, donc je suis très content. C'est vraiment une interview réussie. Merci à vous en tout cas, Vincent Montgaillard. Ce livre est original, parfois drôle, souvent instructif. Ça s'appelle donc « Je vous pardonne tous vos péchés ». 40 prêtres dévoilent les petits, les grands secrets de la confession. C'est donc signé Vincent Montgaillard et ça sort demain aux éditions de L'Opportun. Merci.
Merci beaucoup.